Chapitre 6. Tandis que ces événements se précipitaient, avec cette rapidité à demi fantastique des heures de crise, où tout un travail caché de plusieurs semaines, de plusieurs années parfois, se découvre soudain, pour le plus grand étonnement des personnes mêmes chez lesquelles ce travail s'est accompli, à quoi s'employait l'inconscient ouvrier de cette catastrophe, ce Bassini, dont le dévouement paternel produisait, à son insu, cet étrange résultat, faire se réaliser précisément ce qu'il voulait empêcher à tout prix. À tout prix, c'était bien les mots qu'il se prononçait tout bas en sortant de l'hôtel Janson. Mais des résolutions de cet ordre se prennent plus aisément qu'elles ne s'exécutent. Gouverner la volonté d'un autre est toujours difficile, même quand cet autre est un fils ou une fille sur qui l'on exerce l'autorité reconnue d'un père ou d'une mère qui commande tout haut. Quand il s'agit de quelqu'un à qui l'on doit cacher, d'abord et surtout, la raison de l'intérêt passionné dont on l'entoure, que faire? Quel moyen imaginer, efficace sans être révélateur? Quel plan combiner qui ne dénonce pas le motif par lequel on est guidé? En s'adressant comme il avait fait à la mère, Bassini était allé du premier coup jusqu'à l'extrémité de ce qu'il pouvait se permettre et l'on a vu quelle pensée il avait soulevée déjà chez Nicole. Quoiqu'il ne soupçonnât pas ce premier effet de son intervention, il savait trop la vie pour ne pas appréhender de donner l'éveil par une seconde démarche au soupçon de sa fille. Devant cette seule idée, il frissonnait d'épouvante. Il venait de comprendre, dans son entretien avec Madame Janson, que cette femme, si peu scrupuleuse dans ses galanteries, avait su maintenir son image intacte dans le respect de Nicole. Respect mensonger, dérobé presque, fondé sur une illusion. Pourtant, le vrai père eût considéré comme si dur d'y toucher, comme très contraire aussi à son projet. Mais si le scrupule lui défendait de pousser son action plus loin du côté de sa fille, ne pouvait-il pas surveiller le jeune homme, dont la coupable indiscrétion l'avait éclairé sur le danger qui menaçait Madame de Mognot, ce Maxime de Portille qu'il avait revu dans le grand salon de l'hôtel Janson avec un tel frisson de mépris? Il était bien probable, il était certain que ce garçon ne poursuivait pas cette seule intrigue. Si pourtant, lui, Bassini, arrivait à tenir la preuve que le jeune viveur avait encore plusieurs autres maîtresses, s'il donnait cette arme à Madame Janson pour achever de convaincre Nicole que le sentiment du séducteur n'était pas sincère, tel fut le prétexte que le père inquiet se donna pour se permettre une nouvelle tentative qui ne s'accordait pas à la ligne de son caractère. Il entreprit de rechercher dans quelle maison de la rue du Mont-Tabor Portille louait le petit appartement secret dont il avait parlé à Paul Richardot, son digne confident. Bassini était un gentleman dans toute la force de ce beau mot que les Anglais ont eu l'honneur de trouver et d'imposer, tandis que nous laissions, nous, dépérir la vieille formule de nos pères, cet honnête homme, qui exprimait ce même scrupule devant le choix des moyens, cette propreté vis-à-vis de soi, cet honneur intime qui voulait que, jadis, un maréchal de Turenne tînt sa parole à des voleurs. Le gentleman ou l'honnête homme répugnait d'instinct dans le père de Nicole au procédé d'une inquisition qui nécessite toujours des marchandages de conscience auprès des inférieurs. Ajoutons que, s'il passa outre à ses répugnances, ce fut avec une suprême gaucherie. Elle attestait combien sa délicatesse souffrait de la démarche où l'entraînait des mobiles plus profonds que le désir de dénoncer la duplicité de Portille. Et c'était tout simplement cet élan presque animal de l'homme qui se jette dans un incendie où il sait que l'enfant issu de sa chair va périr. Bassini voulait être sûr que Nicole ne viendrait pas à ce rendez-vous dont l'autre avait parlé et, si elle y venait, il voulait être là, l'empêcher matériellement d'entrer, d'approcher, de se perdre enfin. Comment? Il ne le savait pas et c'était un projet de démence. Raisonne-t-on quand le cœur est pris tout entier? Et le sien l'était si profondément, si absolument, par ce passionné désir d'arracher sa fille à l'adultère, dut-il de son corps lui barrer la porte par où elle voudrait passer pour aller vers ce premier amant. Dès l'après-midi, donc, où il était venu faire visite à son ancienne maîtresse, il commença d'examiner cette rue solitaire, choisie par Maxime pour ses rendez-vous galants. Il allait, marchant sur le trottoir et regardant la face des maisons, avec toute l'attention dont il était capable. Comment ne se fût-il pas rappelé que lui-même, au temps de sa liaison avec la mère de Nicole, il avait loué, hors de son logis avoué, un asile semblable dans une autre rue, maintenant démolie, et dont le nom, si on l'eût prononcé tout haut à cette minute, lui aurait fait tant de mal? Comment oublier que cette fille, dont l'avenir moral se jouait en ce moment, avait été conçue dans ces conditions de mensonge et de mystère? Elle était née d'une de ces rencontres où l'homme arrive inquiet, se retournant comme un voleur pour épier s'il n'est pas suivi, où la femme se rend en fiacre, rideau baissé, en toilette sombre, une double voilette sur le visage. Jamais le sentiment de la responsabilité qu'un couple criminel encourt en transmettant la vie ainsi n'avait saisi le père de Nicole comme en cet instant. Jamais non plus il n'avait réalisé, avec une plus poignante évidence, même au lit de mort de sa fille légitime, cette dure loi de l'hérédité qui veut que nos tares physiques se retrouvent chez nos enfants et non moins sûrement nos tares sentimentales. Si Nicole s'était laissée courtiser par Maxime de Portille, si elle se sentait attirée vers le monde des émotions défendues, vers la dangereuse fièvre de l'adultère, quoi d'étonnant ? L'âme de sa mère réapparaissait en elle, l'âme de son père aussi. Les mêmes désirs qu'il avait, lui, Bassigny, éprouvés et inspirés, brûlaient ce sang, issu de son sang, palpitaient dans ce cœur émané de son cœur, consumaient cet être sorti de son être. L'idée lui devint intolérable qu'une de ces croisées, peut-être, qu'il interrogeait du regard, ouvrait sur une chambre où une autre enfant serait conçue par son enfant, pareille à celle-ci, pareille à la mère. Cependant, son observation continuait, aussi minutieuse que s'il n'eût pas roulé dans son esprit ses dures pensées. Il allait et il venait, se disant devant telle maison, « Ce n'est pas celle-là !» et devant telle autre, « Si c'était celle-ci !» Il appelait à lui toutes les ressources de son ancienne expérience pour juger, d'après l'aspect d'une porte cochère, d'après un intérieur de loge aperçu par une fenêtre, d'après la physionomie d'un concierge, le caractère, suspect ou non, de chacune de ces bâtisses, au premier regard si pareilles, au second si individuelles et si différentes. Ses soupçons s'arrêtèrent enfin sur l'une d'elles, qui faisait l'angle de la rue du Mont-Tabor, et d'une des rues qui la coupe. À l'examen, il constata que cette maison paraissait avoir une entrée sur chacune des deux rues. Mais comment vérifier si son hypothèse était exacte? Il songea d'abord à offrir de l'argent au portier pour en obtenir ce renseignement. Puis il sentit qu'il se mépriserait trop de se dégrader à cette ignoble action. Il préféra questionner l'homme, simplement, franchement, en se disant « Si ce portier est un de ses locataires, ce peut être sous un faux nom, et alors je ne saurai rien. Si Portille a loué sous son vrai nom, l'homme est son complice, et il niera. Alors il sera troublé. Je saurai bien voir ce trouble, et si j'apprends quelque chose, je n'aurai pas, du moins, rendu un coquin plus coquin encore. » On voit que le mariage, la vie de famille et le séjour à la campagne ne sont guère propres à fabriquer de bons policiers. Mais certaines droitures sont parfois de suprêmes habiletés parce qu'elles déconcertent la prévision, et Bassigny aurait-il été plus adroit en rusant? Le résultat sembla bien prouver que non, car, à sa demande, « Est-ce que M. de Portille n'a pas un pied-à-terre ici ?» Le regard, effaré une seconde, de l'homme interrogé si brusquement, fut la réponse la plus décisive pour le questionneur qui attendait. « Je ne connais personne de ce nom dans la maison », disait cependant le concierge qui s'était repris, et il dévisageait l'interrogateur avec des yeux devenus insolents et impénétrables. « Absolument personne. On m'avait donné ce numéro », répliqua Bassigny qui n'insista point. « On se sera trompé. Et, à part lui, c'est ici. Ce portier racontera à qui de droit quand monsieur suspect est venu le questionner. Tant mieux. Si Portille pouvait prendre peur, à moins qu'une fois averti, il ne déménage et qu'il ne change le lieu de ses rendez-vous. Mais d'ici là, Madame Janson aura agi. La grande affaire, au point où en sont les choses, c'était de gagner du temps et cette peur de Portille, quand il saura que l'on a déniché son petit appartement, nous assure au moins quelques semaines. » Cette enquête domiciliaire avait abouti à une conclusion encore trop hypothétique pour que cet homme malheureux ne cherchât pas un autre moyen d'apaiser l'anxiété imaginative qui le possédait. Il lui semblait que, s'il pouvait revoir Maxime de Portille lui-même et son ami Paul Richardot, il apprendrait, rien qu'à les regarder, quelque chose de plus positif sur le résultat de la démarche que Janson avait dû faire, par ordre de sa femme, auprès de leur gendre. Quoique Bassini se rendît trop compte que cette démarche n'avait pas pu s'effectuer avec cette immédiate rapidité et que, même effectuée, les conséquences n'en apparaîtraient que plus tard, il vint au cercle passer la soirée, soutenu par cette chimérique espérance. Qui sait si Janson n'a pas vu Mougnot et si Mougnot n'a point parlé tout de suite à Nicole? Qui sait si celle-ci n'a pas vu elle-même Portille aussitôt? Et alors, elle a peut-être déjà montré à ce drôle assez de froideur pour qu'il comprenne que tout est changé. Telles étaient les suppositions enfantines parmi lesquelles il usa le temps, de 9h du soir à 2h du matin, montant tour à tour et redescendant l'escalier du club, fouillant du regard les petits et les grands salons, la salle à manger, la salle de billard et la salle de baccarat, sans rencontrer ni l'un ni l'autre des deux jeunes gens. Que fût-il devenu s'il eût soupçonné que ce Maxime de Portille, qu'il cherchait ainsi, s'accoudait en ce moment même sur le devant d'une baignoire aux variétés, tranquille, souriant, charmant, et qu'il prononçait tout bas des paroles tentatrices à l'oreille de Nicole, sous le regard indifférent du mari? Cette absence d'événement rendit Bassini plus nerveux durant la nuit et la journée qui suivirent. Cette journée, il la dépensa de nouveau à errer entre le cercle et la rue du Mont-Tabor. Puis, vers 5h30, incapable de supporter davantage cet état d'ignorance totale, il retourna rue de Montalivet. Madame Janson était chez elle, qui le reçut, dans le même petit salon que la veille, mais cette fois très nerveuse elle-même et visiblement troublée. Son gendre sortait de chez elle. En quelques mots, elle mit Bassini au courant des incidents qu'elle venait d'apprendre. L'entretien, la querelle plutôt, du mari et de la jeune femme, la rébellion de cette dernière, son attitude inexplicable, cette sortie soudaine et pareille à une fuite, comment Mougnot avait été surpris par Nicole en train de les piller. Et, un peu penaud à la fois et furieux, il était venu tout raconter à sa belle-mère, à cette même place. « Je regrette tant de ne pas avoir suivi votre première idée, » conclut celle-ci. « Oui, j'aurais dû rapporter aussitôt à Nicole ce que vous m'aviez dit, cette abominable indiscrétion de Portille. Elle m'aurait cru, au lieu que maintenant... » « Maintenant ?» interrogea Bassini, le cœur serré. « Eh bien, elle pensera que je veux seulement soutenir son mari. Elle me demandera de qui je tiens ces détails. » « Peut-être sait-elle déjà que vous m'avez parlé ? Mais oui, elle a vu Portille au théâtre hier soir. Lui-même vous avez croisé ici et certainement reconnu. Il aura deviné que vous veniez me redire ses propos de la veille, je le comprends à présent, et il a dû prendre les devants en inventant quelque histoire. Sais-je laquelle ? Mais si vous jurez à Nicole que vous lui dites la vérité, dit Bassini, « croyez-vous qu'elle hésitera entre votre parole et celle de cet homme ?»« Hier, j'aurais répondu que non, » dit la mère. « Aujourd'hui, j'ai peur. » Elle répéta, d'une voix qui fit mal à celui qui l'écoutait, « J'ai peur, peur qu'il n'ait touché à cela dans son cœur, à cette confiance absolue qui m'était si chère, si précieuse. » Elle n'ajouta rien. L'image du petit Roland de Brève venait de traverser sa pensée. Bien que Bassini ne connût pas la place scandaleuse que jouait ce camarade de Maxime dans l'intimité du ménage Janson, son premier regard lui avait appris que, malgré l'âge, cette femme, jadis si légère, ne renonçait pas à l'amour. Le soudain silence qui suivit ce poignant « j'ai peur » s'interpréta pour lui dans sa triste vérité. Sur le point d'entrer en lutte ouverte avec l'amant possible de sa fille, la mère appréhendait que cet homme ne la dénonçât à cet enfant. Il n'y a pas de parole pour exprimer des impressions de cet ordre, ni pour les soulager. L'ancien complice des premiers égarements de la mère coupable fut pris, devant cette muette angoisse, d'une pitié qu'il eut la délicatesse de cacher. Puis il eut peur lui-même en entendant sa maîtresse d'autrefois qui reprenait « Voyez-vous, je connais Nicole. Je retrouve en elle tant de choses de moi. Lorsqu'elle était petite et qu'elle se butait, rien n'avait raison de son entêtement. Je crains que son mari ne l'ait mal prise et, dans une minute d'exaspération, que ne fera-t-elle point ? Vous supposeriez qu'elle puisse prendre cet homme pour amant par folie de dépit ?» La mère eut une réponse sur les lèvres qu'elle ne prononça pas. Qu'avait-elle besoin de la formuler, cette réponse, pour que Bassini l'entendît ? Un souvenir venait de passer entre deux, celui d'un rival dont il avait été jaloux et à cause duquel ils avaient eu, Madame Janson et lui, les plus atroces scènes de leur liaison. Il se rappelait que sa douloureuse exigence avait rencontré chez sa maîtresse une rébellion d'autant plus exaspérée qu'il était lui-même plus impérieux et plus dominateur. Il s'était demandé, souvent, depuis lors, s'il n'avait pas contribué à la jeter dans les bras de cet homme où il savait qu'elle était tombée, en surexcitant chez elle ce sens de la révolte qui, maintenant, frémissait chez la fille comme il avait frémi chez la mère, aussi aveugle, aussi impétueux, aussi capable des pires dérèglements. Cette phrase, dont Madame Janson n'avait pas dit les mots, était si claire. « Et moi aussi, quand j'avais 25 ans, j'ai pris un amant par fureur de dépit. » Le désespoir du vrai père, devant les fatalités dont il retrouvait sans cesse la menace autour de lui depuis ces 2 jours, éclata dans ce cri qu'il jeta à 7 minutes. « Que faire ?» Cri découragé auquel fit écho la voix de la mère qui répéta elle aussi « Que faire ?» Et tous les deux demeuraient immobiles dans le crépuscule qui les noyait de sa mélancolie, se rappelant d'autres heures semblables, des fins de rendez-vous, par les demi-jours où l'agonie de la lumière enveloppait leurs dernières caresses. Qu'ils payaient cher ce lointain passé !